Cobas.com. Rencontre
haute fidélité
par Marc Sisman.
Bonjour Chab.
Bonjour Marc.
Chab, ou Antoine Chabert, enfin je crois qu'on dit plutôt Chab, c'est ça?
Voilà.
Vous êtes ingénieur du son, spécialisé en mastering, c'est toujours un nom qui fait un petit peu peur. Vous nous raconterez tout ça, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi musicien, vous avez aussi un label, même si cette activité translabienne vous prend, je crois, une grande partie de votre temps. Le mastering, c'est toujours une étape qu'on dit clé de la vie d'un disque, enfin d'un album plutôt.
Ouais.
C'était l'un des... Mon prédécesseur passé derrière ce micro avait raconté une anecdote où un artiste lui avait dit « Finalement, moi je fais les fleurs et toi, l'ingénieur du son en mastering, tu permets à la fleur d'éclore. » Est-ce que c'est une définition certes poétique qui vous convient ou est-ce que vous en avez peut-être une autre?
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal.
Vous la gardez.
Je ne connaissais pas celle-là. Ou alors, on pourrait dire aussi... t'es l'emballage des fleurs, quoi. Ouais, enfin,
le paquet cadeau.
Voilà. Mais ce qui est.
On le jette après le paquet cadeau en général.
Voilà, c'est vrai, ouais. Non, ce qui est beaucoup moins poétique. Mais la définition, elle est quand même pas mal. Après, voilà, le mastering, c'est.
Quand vous devez parler de ça à des amis ou des gens qui vous connaissent et qui.
Alors.
Mais qui sont pas du milieu et qui vous disent, mais ouais. C'est quoi le mastering exactement? Je suis sûr que ça vous arrive régulièrement.
Tout le temps, ouais. Enfin, tout le temps. Du coup, j'évite de dire ce que je fais parce que ça prend toujours du temps avant de. Non, en gros, c'est. Il y a une partie technique et artistique, voilà, comme mes confrères ont pu le dire sur d'autres podcasts, c'est-à-dire la partie technique, c'est-à-dire qu'on est là pour faire que la musique, comme c'est la dernière étape avant l'usine, que la musique puisse être diffusée et bien restituée sur tout type de support, c'est-à-dire on parle à la fois des super chaînes audiophiles jusqu'aux petits moniteurs d'ordinateur ou de casque ou voilà de la radio en mono, en stéréo. Donc tout ça, voilà, on est là pour vérifier que la musique va bien être soigneusement restituée sur tous ces supports. Et la partie artistique qui est plus ou moins, on va dire, importante suivant les projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets où on va pouvoir donner une couleur au morceau ou pas. C'est-à-dire on veut une couleur plus agressive, plus feutrée, avoir un son rond, chaleureux ou un son plutôt qui fait un peu crispy là, qui racle un peu l'oreille, on va dire. Donc voilà, après on peut donner des couleurs. Voilà, il y a cette partie artistique. L'important, je dirais, c'est avant tout, c'est bien restituer l'émotion de la musique. Voilà, c'est moi, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est là pour sublimer les mix et pour essayer qu'un morceau, par exemple un morceau de classique, soit ample et agréable à écouter, par exemple un peu plus qu'avant, sans détériorer les timbres. Un morceau hip-hop soit... qui nous rentre dans la gueule, entre guillemets, un morceau soul qui groove plus à l'arrivée qu'au départ. Voilà, on est là aussi pour influer, faire ressortir les bonnes fréquences d'un mix pour restituer une émotion et essayer qu'elle soit la mieux possible. Bien entendu, tout cela est très subjectif. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile. Il y a un travail de dialogue avec...
Il y a l'artiste, il y a l'ingénieur du son, il y a d'autres acteurs autour de ça.
Voilà. Ensuite. C'est-à-dire que dans une séance, on se retrouve ou avec l'artiste, ou l'ingénieur du son, ou le producteur, ou tout le monde en même temps, ou personne. Donc, suivant les cas de figure, voilà, c'est ou à notre choix, et après on envoie, on demande si ça va, ou alors il y a vraiment un réel travail de discussion pour savoir pourquoi les gens, s'ils savent déjà ce que peut apporter le mastering, et s'ils savent dans quelle orientation ils veulent aller. Je ne sais pas si je suis un peu trop... si c'est bien clair, mais en gros, c'est savoir si on va aller, c'est ça, dans quelle direction on va. Est-ce qu'on veut avoir une grosse patate? Est-ce qu'on veut garder le mieux possible? Parce qu'au départ, le mastering, c'est quand même une restitution. C'était d'abord, avant, ça s'appelait la gravure, c'était la gravure vinyle. Donc, c'est quand même une restitution du mix qui, a priori, est ce qu'on veut entendre, c'est le mix. Donc après, le mastering, c'est quand même une restitution du mix sur un autre support qui va être diffusé, et donc c'est restituer le mieux possible le mix pour qu'il soit mis sur d'autres supports. À partir de là, on corrige les erreurs de mix entre guillemets, c'est-à-dire si un mixeur va mixer à un endroit qu'il ne connaît pas, il va avoir un peu trop de grave, un pas assez d'aigu ou une fréquence qui va être proéminente dans son mix, on est là pour corriger ça. Donc à la base, c'est vraiment restituer le mix. Après, au fur et à mesure des années, il y a une part beaucoup plus importante du mastering qui on a pris de plus en plus de poids, même si ça a toujours existé. Donc dans le fond, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, avec les outils d'aujourd'hui, aller beaucoup plus loin que... C'est-à-dire, on peut vraiment faire des fois des miracles, entre guillemets. Ou
sauver, on peut sauver parfois des projets qui, à première vue...
On peut sauver, ouais. Des fois, c'est vraiment quand on fait un AB, ce qu'on appelle une comparaison avec avant-après. Des fois, ça change pas mal, mais on part toujours du mix. Donc, il faut toujours se dire que, par exemple...
Les miracles restent limités.
Voilà, restent limités. Ou alors, c'était juste parce que le mix était quand même pas mal, mais brouillon, et que, en fait... il y avait quand même la matière pour arriver à ce résultat-là. Quelque part, un truc où il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs de mix, ce sera jamais... On pourra pas faire de miracle. On pourra faire un truc écoutable, mais pas un miracle. Par contre, s'il n'y a pas eu d'erreur de mix, mais que c'est juste... c'était très sourd, mais sans erreur, c'est-à-dire que tous les éléments étaient bien... étaient bien proportionnés les uns par rapport aux autres, il suffit d'éclaircir, et tout à coup on se dit oh « ouais, c'est génial », mais en fait, c'est juste que le mix était très sourd, nous on a éclairci, et en fait, c'est la comparaison AB, elle devient énorme, mais en fait, il y avait la matière pour le faire, donc quelque part, c'est que le mix n'était pas si mauvais que ça, mais que ça ressemble à un miracle qu'on compare avant-après, du coup après, voilà. C'est... Donc on est, voilà, je veux dire, voilà, c'est un peu un métier de l'ombre, mais c'est quand même un métier qui est important et qui est passionnant. Voilà. Enfin, bon,
Alors, en étant de l'ombre, vous êtes aussi dans la lumière parfois, puisque la musique, vous n'êtes pas juste les mains dans le moteur, la musique, vous en faites. Comment on arrive justement à se retrouver ingénieur du son, en mastering? Quel est votre parcours?
Comment on y arrive et quel est mon parcours? Je pense que c'est deux choses différentes. comment on y arrive? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des écoles, ils forment aujourd'hui les gens, enfin ils en parlent.
Qu'est-ce qui a fait que vous retrouviez ?
Moi, j'ai cherché du travail, n'importe quoi en fait, j'étais prêt à tout faire dans la musique. Enfin, c'est-à-dire, j'ai
commencé
par
faire dans la musique, entre guillemets.
Non, pas dans la musique, en fait j'ai commencé, j'ai fait une école de son, j'ai travaillé dans une salle de concert pendant 2 ans, j'ai fait du live.
Donc les problématiques de son étaient quand même quelque chose qui vous attirait dès le début.
Ouais, le son, ça fait un petit moment, avant de faire ça, j'enregistrais mes groupes, c'est moi qui faisais les 4 pistes. Et avant ça, quand j'avais 12 ans, voilà, j'ai acheté ma première mini-chaîne. Enfin bon, c'est un truc que j'ai toujours aimé. J'ai l'impression, j'ai toujours aimé la musique et le son. Voilà, la musique, j'ai commencé à 6 ans par faire de la clarinette. Après, j'ai arrêté parce que j'aimais plus trop. J'ai fait de la guitare à 16 ans. Voilà, donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même toujours un peu suivi. Et comment j'en suis arrivé là? Après avoir fait des concerts pendant 2 ans, j'ai voulu commencer à tourner avec des groupes, mais j'étais pas encore assez connu pour me permettre de, pour que j'ai vraiment beaucoup de clients et gagner ma vie avec ça. Donc j'ai dû faire, je suis devenu coursier, j'ai pris le premier boulot que j'ai trouvé. Et au bout d'un an d'être coursier, je me suis dit, bon, bah maintenant ça suffit, il faut que je trouve du boulot dans un studio. Et j'ai démarché tous les studios de Paris pendant 6 mois. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir un entretien à Translab, qui à l'époque, qui est toujours donc, un gros studio de mastering parisien. Et je dis au patron, il me dit, parce qu'à Translab, il y a aussi un studio d'enregistrement qui s'appelle Gang. Il m'a dit, mais tu veux travailler où à Gang, à Translab? Je dis, moi, je m'en fous, je veux travailler. Donc voilà, il m'a mis à l'essai à Translab, ça m'a plu, ça lui a plu.
Et ça fait plus d'une décennie que,
voilà.
que vous y êtes.
C'est ça.
Quand on est justement des deux côtés de la barrière, quand c'est l'air mélomane, on fait de la musique soi-même, et on est aussi de l'autre côté derrière, avec on voit le décor, les trucages, etc. Il n'y a jamais finalement de frontières, c'est-à-dire est-ce que quand vous vous retrouvez en studio à faire du mastering pour des groupes, des artistes, qui parfois même peuvent faire une musique qui ne vous touche pas, vous restez quand même musicien, comment ça se passe? Est-ce qu'on switch facilement dans sa tête? Est-ce que...
Ouais, je pense que c'est pas trop compliqué.
Est-ce que finalement l'un aide l'autre? Est-ce que c'est là, vous êtes la même personne tout le temps?
Oui, je pense qu'on peut être soi-même dans tous les cas de figure. J'en parlais au début de l'émission, là, de l'émotion qu'on essaie de restituer. On a la musique, quand on est musicien, on essaie de choper une émotion, un moment pour de se mettre dans un contexte pour faire qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes en tant que musicien. Quand on est ingénieur du son mastering, je fais plein de projets différents, de styles différents, on va dire, plutôt. La musique, elle me plaît généralement pas.
Il y a
quand même
de
des goûts. Voilà, je vais pas les écouter chez moi, mais bon, c'est...
C'est facile, ça, justement, quand on se retrouve à travailler un projet qui peut être intéressant, mais stylistiquement, qui vous touche pas du tout.
C'est facile, parce que Parce qu'on est, on a d'autres critères. Du coup, là, c'est le switch, c'est-à-dire qu'on écoute le son et la musique. J'écoute, par exemple, pas trop les textes, mais parce que ça, c'est aussi... comment dire, c'est, parce que j'ai envie que les textes, je les entends, mais je veux dire, je vais pas les... Comment dire, je suis pas focalisé sur le style et sur l'artistique. J'ai envie de dire, ok, j'ai ça, je veux l'amener là. Et j'y vais. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et des fois, j'ai même plus de plaisir à travailler sur une musique que j'aime vraiment pas que sur un truc que j'aime bien. Ou, par exemple, il y a trop de problèmes. C'est-à-dire que je préfère avoir limite un bon mix d'une musique que j'écoute pas chez moi. Et là, je vais prendre du plaisir. En fait, c'est juste un travail technique et artistique, comme j'ai dit au début. Mais en fait, le but, c'est de prendre du plaisir à satisfaire les clients et à amener la musique à faire que ce soit beau et agréable à écouter. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça en tout cas. Et donc les considérations artistiques, au final, je m'en fiche un peu. Enfin quand je dis que j'aime, après on est quand même, il y a quand même les projets. On fait quand même des projets qui nous concernent malgré tout. C'est-à-dire que par exemple. J'ai l'impression que mes clients, du coup, au final, c'est quand même un style de musique que j'aime bien parce qu'ils savent quels sont mes goûts. Et puis, donc, je vais pas faire, par exemple, je suis pas trop spécialisé dans tout ce qui est. Au final, on a quand même une. Malgré tout. On a quand même une couleur de mastering. Enfin, c'est-à-dire on va m'appeler pour des trucs plus pop, rock, variété. Je fais quand même du hip-hop, je fais quand même de l'électro, je fais du jazz. Mais je fais de la musique de film. Les principaux projets qu'on m'amène, c'est quand même pop, rock, variété. Enfin, mais bon, voilà. Après, je fais aussi de la world music, je fais le... Après, c'est aussi beaucoup le relationnel, c'est-à-dire ce qui fait beaucoup aussi dans ce métier, c'est le
bouche-oreille,
que je vais travailler avec un label ou des ingénieurs du son qui vont avoir eux différents projets, différentes couleurs, mais qui aiment bien mon travail, donc on va travailler quand même ensemble, malgré le si c'est pas trop ce que j'écoute chez moi. Mmh. C'est pas grave, on écoute suffisamment de musique pour savoir quand même comment doit sonner chaque style différent, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette musique.
Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu les bras, nu sur la lagune. Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu sur la lagune. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne voit pas, toutes ces choses que je n'ai plus. Je marche nu les pieds, nu le vent se lève sur la plage d'Ipanema. Je marche nu, tu vois, je n'ai rien sur moi. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne devrait pas avoir sur soi. Et le soleil sur les vagues fait des entrelacs. Et ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. J'attendrai que le soleil se lève et le vent avec moi. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux d'adultes, tu vois. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux de brutes, c'est ça. Et les gosses jouent, ils savent déjà l'amour, l'argent, le vent. Sont des choses qu'on ne compte pas, des choses qui excitent la vue, des choses qu'on ne donne pas pour rien comme ça. Et le vent se lève sur la plage d'Ipanema.
Et de tous ces projets, est-ce que il y en a quelques-uns qui vous tiennent plus à cœur au niveau du résultat final, justement sur l'aspect mastering, sur le résultat final, même si stylistiquement peut-être l'album n'est pas votre disque de chevet que vous voudrez écouter régulièrement, est-ce qu'en tant que vraiment sur votre mission, une ou plusieurs missions, à la fin au final vous en tirez vraiment quelque chose de mieux que d'habitude ou...
C'est-à-dire les projets que j'ai...
Oui, sur un album. Est-ce qu'il y a un, deux, trois, quatre albums qui vous tiennent particulièrement à cœur pour le résultat final par rapport à ce que vous avez fait ? Vous êtes peut-être tout le temps content de vous, finalement.
Non, mais je veux dire, ce qui me tient... des fois, je vais passer beaucoup de temps sur un projet. Ce qui me tient à cœur, c'est d'arriver au résultat que je veux. Donc des fois, en fait, je vais... un album, un super album... je veux dire super dans le sens où j'aime la musique. Ça va... Je vais peut-être y arriver tout de suite et je vais être content. Et des fois, je peux avoir un truc complètement obscur que j'aime pas trop musicalement, mais je vais passer plus de temps là-dessus parce que j'aurai plus de mal. Je suis pas arrivé du premier coup. Donc, ce qui me tient à cœur, moi, c'est vraiment de me dire OK, j'y suis. À un moment, on tourne les boutons, on essaye plusieurs machines. À un moment, on se dit OK, ça y est, c'est ça que je veux. Et là, je suis content. Mais ça, des fois, je peux mettre plusieurs heures avant d'y arriver. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est ça. Après, les albums dont je suis fier d'avoir fait, Par exemple, il y a Noir Désir, des visages, des figures. Ben voilà, je suis content parce que c'est un grand groupe de rock. Que,
oui, finalement, que, parfois, c'est souvent lié à l'art ou artistiquement, c'est quelque chose qui.
Voilà, est... bon, après, c'est des, comme, y a quelques trucs qui ressortent. Il y a un Salif Keita Mofu que je trouve sublime comme album. Il y a. Il y a un Belmondo, Hymne au Soleil, qui est superbe. Voilà, il y a des disques que je suis content d'avoir fait. Après, il y en a d'autres. Le dernier qui est Renan, que je trouve super beau, 101. Je... Bon, mais j'ai pas vraiment de... Je... j'ai mis tout mon cœur, on peut dire, parce que mais je le fais pour tout le monde en fait. J'ai pas, je me dis pas, tiens, celui-là, bon, c'est pas très important. Voilà.
Est-ce qu'avec le temps, on a finalement des recettes qui permettent, bah, d'un côté, c'est son style, j'imagine, sa patte personnelle, après, qui permettent aussi d'avancer, de ne pas stagner. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir des recettes et que vous disiez tout à l'heure, on vient nous voir parce que pour tel ou tel type de son ou tel type de projet?
Ouais.
Et est-ce que parfois il y a comment on gère justement ces recettes, c'est-à-dire est-ce que parfois on arrive aussi à se remettre en question, parfois à avancer, à essayer de.
Ouais, moi je me remets tout le temps en question dans le sens, enfin voilà, c'est aussi ma nature. Des fois je devrais pas trop faire ça, mais c'est-à-dire par exemple là je viens de refaire mon studio entièrement, donc j'ai changé de tout le câblage. J'essaie d'aller plus loin en fait. Je me suis dit bon voilà, ça fait 12 ans que je fais ça. Je suis arrivé à un moment où je me disais bon ben mon matériel. Comme ça, j'arrive à une certaine limite technique, que donc j'ai appris avec le même matériel pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour aller plus loin? Donc, bon, on essayait d'autres machines, de nouveaux procédés. Et en fait, on se remet donc en question, mais est-ce que c'est mieux le système? On change de méthode, on change de recette, donc.
Et on a toujours le même Graal, au fond, c'est pas toujours la même chose qu'on cherche?
Oui, toujours la même chose, mais du coup, je me dis, ça se trouve, le matériel que j'avais au début était largement très bien, pourquoi j'ai tout changé? Bon, après, voilà, on peut sans... Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, voilà, si on veut toujours avoir la niaque et se faire plaisir, il faut aussi aller chercher d'autres choses. On essaie de... Moi, en gros, j'essaie de me faire un setup. Là, mon but actuel, c'est de... Voilà, j'essaie pas mal de machines, j'essaie de me faire un setup le plus réduit possible, où je vais pouvoir avoir une palette la plus large possible. C'est-à-dire avoir de l'efficacité, de chercher un... Quand je dis un setup, c'est-à-dire des machines, des écoutes, du câblage, de dire voilà, ça, c'est ce que j'aime bien, et je vais essayer d'en avoir le moins possible pour pas me perdre, essayer 12 trucs quand un client vient, essayer, ah, je peux peut-être essayer avec celui-là, ah, je peux essayer celui-là aussi, ah, ouais, et puis ah, mais si je mettais... Non, à un moment, je crois qu'il faut aller en mastering, il faut aller vite. Le plus dur, c'est ça, c'est de savoir où on va taper. C'est-à-dire qu'il faut bien écouter le morceau et dire, ok, ça, si je fais, c'est là où je vais aller. C'est cette machine que je vais utiliser par rapport au son qu'on me ramène. C'est hyper important, c'est-à-dire qu'on va nous ramener des mix complètement différents, suivant où ça a été fait, qui l'a fait, la musique que le mixeur a eu à la base dans les mains, est-ce que c'était enregistré à la maison, est-ce que tu es dans un bon studio, des fois c'est mieux à la maison, hein. Je dis pas que voilà, hein, c'est mais tout ça va faire que tous les projets, à part il y a des mixeurs, la couleur va être très très tout le temps la même parce qu'ils maîtrisent bien leur outil de travail, donc on sait où lui il vient, là je peux appliquer ça, ça va être sa marcette parce que je connais ses mix, mais à part ça, il y a pas de recette, il faut juste être très efficace sur au départ, sur quand on écoute la musique, dire voilà, j'entends ça, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais utiliser, et du coup, ben après il faut y aller, il faut essayer d'y arriver dans une sorte de jet, c'est-à-dire de dire ok, j'y vais, boum boum boum, si ça marche pas, il faut vite essayer autre chose, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de garder une sorte d'énergie et voilà, c'est ce que je recherche moi en tout cas, de garder une énergie du mastering, c'est-à-dire aller à l'efficace assez vite. Et des fois, j'y arrive pas du tout. Hein. Enfin, c'est des fois, je peux passer 2 heures et là, je me dis bon, ben, stop, hein, je vais changer de morceau parce que j'y arrive pas. Enfin, voilà.
Comment vous êtes dans ce milieu-là depuis, comme on dit, un peu plus d'une décennie maintenant, donc en termes d'évolution de support? Vous n'avez pas connu, comme certains j'ai l'air de vos confrères plus âgés, l'évolution. Malgré tout, vous avez commencé à un moment où c'était encore la musique dématérialisée était encore balbutiante, enfin commençait à arriver. Comment on vit justement l'évolution des pratiques d'écoute des gens, les pratiques également l'impact de la dématérialisation, au début de la compression, mais maintenant heureusement on commence à s'intéresser aussi aux beaux sons même dématérialisés. Comment on vit tout ça et comment on essaie de faire avec par rapport à ses méthodes, par rapport à ses goûts, par rapport à ses pratiques d'écoute et même de travail? Est-ce que vous avez l'impression finalement que parfois vous êtes un peu, on est un peu esclave d'une certaine demande de certains, ou pas tant que ça, non. On arrive à imposer encore
Non, je pense pas. Au final, ce qu'on veut, c'est écouter que la musique, on écoute et on a la banane, on bouge la tête. Donc que ce soit ça sur un vinyle, un CD ou un MP3, on a envie de taper du pied et de bouger de la tête. Donc je pense que le différent support... On essaye pas de voilà, on essaye de faire que la musique nous plaise. Moi, je pense pas que le support, après voilà, ça change des données techniques, mais au niveau de ce qu'on veut, de là où moi, où quand on m'apporte un morceau masterisé, je demande pas est-ce que ça va être du MP3 ou du vinyle, ou si je le demande si c'est du vinyle parce que c'est pas tout à fait pareil, mais j'entends le morceau et j'ai envie que le morceau il sonne mieux à l'arrivée, et que je pense pas que je vais faire quatre masterings différents. Alors maintenant, si il y a juste une chose qui est arrivée, le seul problème qu'on a eu, c'est l'histoire de niveau. C'est le seul problème qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que tout le monde veut un beaucoup de niveau, donc vraiment tout écrasé. C'est le seul problème
C'est pas négligeable à gérer. Comme problématique.
C'est pas négligeable, parce qu'on sait très bien que si on mettait 3 dB de moins, voire 4, la musique, elle sera gagnante, au final. Donc des fois, c'est un peu dommage. Ça, on sait que là, on en détériore la musique, mais ça, c'est une donnée qu'on peut pas faire vraiment autrement, parce que c'est ce que les clients veulent. Ils veulent pas sonner, parce que tout ça, c'est très simple. Hein. C'est quand quelque chose sonne moins fort, ça sonne moins bien. C'est pour tout le monde, c'est pareil.
Mais ce que je voulais dire justement tout à l'heure dans ma question sur les pratiques d'écoute, est-ce que finalement l'oreille, certes, s'éduque, l'oreille s'habitue, est-ce qu'on arrivait là justement
Alors voilà, du coup on en arrive là. Un truc même mieux, moins fort, ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien pour moi, hein, donc je me fais avoir aussi. On arrive même maintenant donc à s'habituer à de la musique ultra compressée. Ça va être très dur d'en sortir, parce que maintenant c'est rentré donc dans les habitudes d'écoute. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant une musique qui n'est pas tout squatché, tout compressé à bloc, on n'a peut-être plus trop l'habitude. Ça va être difficile d'en sortir. Après, maintenant il y a des nouvelles normes. Il y a eu la loi l'année dernière sur les publicités donc pour la télé, qui sont donc applicables sur toute la télé, donc pour les vidéoclips aussi. Donc là, on a des lois qui vont nous dire, ok, maintenant, si vous voulez que ça sonne le mieux possible, en gros, je schématise, il va falloir mettre moins fort avec plus de dynamique. Quand je parle de dynamique, c'est pas du volume, c'est plus d'écart entre les bas niveaux et les hauts niveaux. Donc là, ça c'est pas mal.
C'est une norme qualitative quand même.
Voilà.
La dynamique, c'est plutôt voilà. De se dire que maintenant,
donc ça c'est pas mal. On a cette loi pour les vidéos. Donc maintenant, je commence à faire donc deux masterings, un pour le CD, un pour le clip. Je demande tout le temps. Cela, il y aura une vidéo, il y en aura pas. J'ai parlé donc avec les gens qui sont à l'origine de cette loi. Ils vont essayer d'appliquer ça à la radio, à l'internet, et il y a peut-être une chance qu'un jour ça arrive sur les iPods et les iPhones ou tous les baladeurs MP3. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est la si on veut quand même que la musique reste un peu garde un peu d'émotion, il faut donc, c'est ça, garder la dynamique. En gros, dans la musique, ce qui nous procure des sensations, c'est les changements de tonalité et la dynamique. En gros, quand on a un couplet qui est fort, qui est tout faible, et puis le refrain arrive et bam, ça y va, et puis là on va se sentir, on va
porter,
voilà. Si tout est écrasé et tout ça, y a plus ce truc là, ça devient tout de la musique d'ascenseur, et là, c'est là le danger de cette guerre de niveau. Et en même temps, moi, je suis le premier à... Là, récemment, j'ai fait un projet où j'ai mis un niveau, mais comme j'avais jamais mis. Et les gens... Bon, c'est de l'électro, en même temps, c'est plus dans les mœurs de la musique électronique, c'est de l'électro-club. Donc, les clients, ils sont ravis. Il sait plus fort que tout le monde.
Mais ils sont au même niveau.
Mais bon.
Il n'y a plus d'écart, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, non. Ouais. C'est tout de la distorsion. Alors voilà. Pour ce type de musique, encore, bon, ça peut se comprendre, mais enfin, ça passe, on va dire. Mais quand même, si on pouvait. L'enjeu, il est là, en fait. Arriver, et on est obligé d'en passer par des lois et des. Et il faut que, pour l'instant, ça, c'est une loi française. Il faut que ça devienne une loi mondiale. Ça y prend cours aux AES, là, aux conventions AES. On en a déjà parlé il y a 3 ans. Moi, j'étais allé à New York à une convention. Ils en parlaient déjà. Là, ça arrive en France. Il faudrait. Voilà, ça va. J'ai l'impression que ça va se. Démocratiser et l'enjeu il est là pour garder quand même une pour que la musique soit quand même toujours agréable à écouter et voilà donc la seule contrainte qu'on ait c'est de se dire des fois ben voilà je vais mettre plus fort mais ça va détériorer alors après c'est au choix ça on le laisse au choix de l'artiste ou du producteur c'est-à-dire on le dit voilà moi je trouve ça bien plus fort, ça va peut-être, il y aura des choses qui seront aussi peut-être agréables parce que ça va te ramener des bas niveaux, donc tu vas entendre peut-être plus les détails, mais en même temps tu vas avoir moins de dynamique. Donc après c'est à ton choix. On fait écouter différentes choses et des fois les artistes ils choisissent pas forcément le plus fort. Donc c'est rassurant. Voilà. Ouais.
Est-ce que toute la mythologie de la production, de la prise de son, etc., de l'histoire, historique, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau humain. C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous a intéressé, ou pas tant que ça, de savoir comment tout ça a évolué, comment est-ce que vous êtes du genre à, sur certains albums qui vous tiennent à cœur, des vieux albums, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça a été dans les cuisines et de savoir...
Ça m'intéresse, j'ai acheté par exemple Recording the Beatles ou le bouquin de Jeff Emerick et j'ai pas eu le temps de le lire. En fait voilà, ça m'intéresse en même temps, j'y consacre pas beaucoup de temps non plus. Moi en fait voilà, je suis... comme j'ai un studio aussi d'enregistrement à côté avec mon label, j'aime beaucoup tout ce qui est vieux matériel, on va dire vintage. Donc j'ai que du vieux matériel, un Pro Tools tout neuf. J'aime bien parce que ce qui est quand même des couleurs qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Je trouve que là, à l'époque, voilà, c'est comme pour les chaînes hi-fi des années 70. À l'époque, on construisait du matériel pour que ça dure et que ce soit dans le temps, donc c'est du solide et qu'il y ait une vraie couleur, il y a une vraie recherche. Aujourd'hui, on construit du matériel pour que ça se casse au bout de 5 ans. Donc, c'est la logique commerciale. Donc, ça, moi, je suis pas fanat de ça. Donc, je préfère acheter des vieux trucs. Il faut toujours les réparer parce que, bon, forcément, si c'est des choses qui ont 40 ans, il faut. Mais oui, moi, j'aime bien tout ça. J'aime bien savoir trouver des choses un peu insolites, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire ça. Mais souvent, ce vieux matériel-là aussi devient très très cher, donc c'est toujours difficile de tout avoir. Mais oui, j'aime bien savoir qu'est-ce qui était fait avant. Mais je veux dire, par exemple, dans mon studio de mastering, aujourd'hui, j'ai quand même 95% de choses neuves, ou de notre décennie, là, parce que, voilà, aussi, je suis allé visiter d'autres studios pour voir, je suis allé épier un peu à droite à gauche. Mais au final, je me dis que de toute façon, tout ça, il vaut mieux. C'est l'expérience qui va faire qu'on va choisir telle ou telle machine, qui va nous plaire, qui va nous parler. Et en fait, j'ai envie de dire, au bout de 10 ans, je me dis, on peut faire plein de choses avec plein de choses différentes. C'est pas si important que ça, dans le fond, même si je l'attache beaucoup, beaucoup d'importance au matériel. Et je me dis des fois, il y a 10 ans, j'ai fait avec ça. Aujourd'hui, j'en peux plus du tout de cette machine, mais c'était quand même pas mal ce que j'ai fait. Et
on s'adapte.
Ouais, on s'adapte. Et puis finalement, ce qui compte, c'est les oreilles et la paire d'écoute, on va dire surtout. Il faut bien entendre dans sa pièce, c'est très très important. Il faut entendre, il faut avoir la meilleure pièce possible. Et au final, qu'on ait une machine X ou Y. J'ai envie de dire, c'est...
presque accessoire.
Ouais, enfin des fois, ouais. Malgré, en fait, ce qui est important, c'est d'aller à l'essentiel. On peut y arriver, des fois on y arrive avec un plug, et des fois on y arrive avec une machine. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais j'aime quand même, j'y attache quand même beaucoup d'importance. Je me prends la tête tout le temps avec les machines. Mais quand je réfléchis, je me dis bon, à quoi bon des fois. C'est ça.
Reste 5 minutes de temps libre, vous faites de la musique, vous avez un label aussi, vous êtes en train de monter votre studio.
Voilà, donc j'ai un label depuis 10 ans qui s'appelle
Third Side
Records, donc où j'ai un groupe qui s'appelle Coco Suma, donc on est sur ce label, où je suis guitariste. Donc j'y travaillais plus avant dans ce label, dans le sens où je faisais l'enregistrement, le mixage des albums de certains albums donc d'artistes qu'on a signé. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui j'ai vraiment plus le temps de faire ça parce que je devais jongler. C'est une histoire de planning en fait. C'est-à-dire quand on fait un album, on a besoin aussi d'avoir 3 semaines de libre pour enregistrer, 2 semaines pour mixer. Et moi, tous les jours, j'ai un rendez-vous de mastering qui est tombé, donc on va décaler. Enfin, c'était ingérable. Donc, je me suis dit, je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Et du coup, comme mon activité mastering me prend de plus en plus de temps, ce qui est super, hein, parce que du coup, ça veut dire que j'ai des clients et que je travaille. Du coup, je m'occupe plus de gérer le studio, voilà, du label. Je m'occupe plus trop de l'artistique, de tout. Voilà, j'ai des.
Il y a une frustration parfois, justement, que finalement le planning, l'emploi du temps translab et de mastering prennent autant de temps. Enfin, une satisfaction, certes, mais parfois. Comme vous l'avez dit, vous êtes musicien, vous êtes artiste aussi, et pas uniquement de temps en temps de se dire ça serait aussi bien que je prenne plus de temps de faire de la musique.
Alors il y a une frustration, c'est-à-dire que là par exemple, ça faisait un an, plus d'un an qu'on n'avait pas fait de musique avec Coco Souma depuis la sortie de notre dernier album. On en a refait à Noël. Ça faisait du bien quand même. Donc on. Après, effectivement, j'ai une frustration, mais bon.
Mon choix, c'est ça.
Ouais, voilà, je suis super content de faire le mastering. Là, pour l'instant, je me dis, voilà, il faut y aller une chose par une chose. Là, je viens de refaire tout changer mon studio de mastering. Donc, ça, c'était depuis septembre, je suis là-dessus. Voilà, j'ai eu une petite pause musique en décembre. Après, maintenant, j'ai attaqué donc le nouveau studio du label, donc parce qu'on déménage, on s'agrandit, voilà, donc il faut tout mettre en place pour que. Mais bon, je fais pas tout, hein. Moi, j'ai des copains qui sont super, qui s'occupent de presque tout. Donc moi, je suis juste là pour voir sur les plans et faire que tout, tu vois, superviser pour que tout aille bien. Et après la musique, la musique, du coup, j'en fais moins parce qu'aussi j'ai des enfants. Le soir, quand je rentre, comme tout le monde, enfin comme les gens de mon âge, on va dire. Donc, forcément, du coup, je prends plus ma guitare le soir quand je rentre. Avant, je faisais ça, je jouais le soir. Maintenant, je m'occupe de mes enfants et je dors parce que je suis fatigué.
Justement, quand on travaille, on a les mains dans le moteur musical toute la journée et pas sa propre musique, la musique des autres. Est-ce que on a, non, c'est pas du temps, mais est-ce qu'on a envie aussi d'écouter juste de la musique pour son propre plaisir? Est-ce que quand les enfants dorment, ou quand, je sais pas, est-ce que vous écoutez de la musique ou pas? Ou finalement,
ça dépend. J'en écoute, mais moi j'aime bien écouter sur la chaîne, donc j'écoute rarement la musique au casque. J'écoute rarement des MP3, j'en achète jamais. La musique.
Vous téléchargez que sur Qobuz en Studio Master, c'est
voilà.
Ça.
J'ai mon abonnement Qobuz, donc ça c'est bon. Mais j'ai envie de le mettre sur la chaîne un peu fort. Enfin, je me rends compte, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est la journée, même avec mes enfants. Hein, donc on met la musique et on met fort, et puis on rigole, on danse. Voilà, moi j'aime bien ça. Donc c'est pour ça que là j'aimerais bien changer. Je veux avoir une maison, voilà, pour tout vous dire, pour pouvoir mettre fort sans déranger. J'ai toujours peur de déranger les gens, voisins. Donc les voisins et mes enfants. Donc là, la chaîne, elle est à côté de la chambre. Donc, j'en écoute pas tellement que ça pour répondre à votre question de la musique chez moi, parce que voilà, j'ai plus trop le temps, surtout. C'est une question de temps. C'est-à-dire que dès que je suis chez moi une après-midi, je vais mettre un disque. Mais des fois, voilà, on en écoute moins qu'avant. On en écoute. Ce qui est dommage, hein, ce qui est regrettable. De toute façon, tout le monde est pareil. Hein, quand on a 16 ans, on écoute des disques 15, 50 fois, 100 fois. Des fois, avant 15 fois avant de les aimer, au début on les aime pas, puis après on se dit, ah ouais, finalement il est super ce disque. Aujourd'hui on n'a plus le temps de faire ça et c'est regrettable, hein, je crois que en discutant avec des gens de mon âge, moi j'ai bientôt 40 ans, j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde pareil. Voilà, on peut plus s'asseoir 3 heures devant notre chaîne IFI avec le livret et à lire les paroles en même temps qu'on. Non, mais voilà, c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, ça change, c'est comme ça, quoi.
Mais toujours au rayon support, côté, j'allais dire, auditeur, côté mélomane, la façon dont les gens écoutent, ici, donc on est dans l'univers du dématérialisé chez Qobuz, mais on y apporte un certain soin en proposant du studio Masters, du Lossless, donc adieu la compression. Comment vous, de ce côté-ci de la barre, j'imagine que c'est quelque chose, ce sont des démarches qui vous tiennent à cœur?
Ouais, tout à fait, ouais. ce que je trouve, bon, moi j'aime pas trop forcément les MP3, quoique le MP3 en 320, je sais pas pourquoi ils proposent pas ça d'ailleurs directement, c'est quand même acceptable. Ce qu'il y a de bien avec, par exemple avec Qobuz, là, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que bah voilà, la musique, donc elle n'est pas compressée, donc c'est même voire mieux qu'une qualité CD. Donc ça, après, des fois, le CD, c'est pas si mauvais que ça non plus. Mais bon, là, on a en tout cas le choix d'avoir... ce qui est bien, c'est qu'on ait le choix, c'est-à-dire qu'on a le choix d'acheter une musique en haute résolution. Moi, je comprends pas pourquoi on achète des MP3 pourris. Voilà, donc ça, c'est bien qu'on propose ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, par exemple, avec Qobuz, j'ai une relation où j'appelle carrément dire, voilà, j'ai tel album qui va sortir. Et que du coup, aujourd'hui, avec la dématérialisation, y a une sorte d'interactivité entre le mastering, vu qu'on est à la dernière étape. Je peux envoyer directement à l'usine pour le pressage. Je peux envoyer directement au site digitaux, comme Qobuz. Et même,
oui, c'est le choix, c'est ce que vous
voilà,
dites.
Voilà, ça propose un choix. Je dis, voilà, aujourd'hui, tiens, j'ai fait ça, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, contacte la maison de disque. Il y a une sorte même de je sais pas, il y a un nouveau truc qui apparaît, en tout cas en termes professionnels, et que je trouve assez sympa, quoi. C'est-à-dire d'appeler les gens de Qobuz, dire, voilà, on va tel album, donc, et de dire à la prod, du coup, ah oui, faites tel album, du coup, ce serait bien qu'il y ait plusieurs qualités de résolution. Tout ça pour, au final, que les auditeurs puissent choisir se rendre compte de la différence et du coup, rééduquer un peu l'oreille des gens, c'est-à-dire qu'une qualité sans le du MP3, ça c'est les petits MP3, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et après, si on y arrive, ce sera refaire un travail de niveau, comme j'en parlais, quoi. C'est-à-dire, voilà.
Il n'y a pas encore l'évangélisation même à faire, parce qu'on a l'impression, finalement, enfin, pas d'éducation plutôt. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ceux qu'on connu, les plus anciens qu'on connu le vinyle, puis le CD, etc. Et la compression, maintenant, on coupe la tête de la compression, mais il y a ceux qui sont nés, qui sont encore jeunes, et qui finalement, leurs oreilles n'ont été au contact que finalement de musique compressée.
Ouais.
Donc, faire comprendre qu'il y a une vraie différence, parce que c'est vrai qu'il suffit d'asseoir quelqu'un devant une chaîne IFI et de lui faire écouter sans. Que ce soit un grand mélomane, il voit tout de suite, il entend tout de suite la différence.
Il entend et il aime bien. Voilà. On en parlait, les jeunes, souvent on leur fait écouter un vinyle, ils disent, même un truc des années, des années 80, même un truc d'électro des années 90, mais quand même, ça sonnait bien ce truc. Et ça sonne mieux qu'aujourd'hui, l'électro aujourd'hui, on a envie que ça fasse que ça torde dans tous les sens. Donc, c'est pas gagné, parce que il y a une sorte d'habitude, comme c'est pas gagné, de dire aux gens qu'il faut l'acheter la musique aussi. Enfin, tu vois, c'est un moment, c'est pas gagné, mais bon, il faut peut-être prêcher la bonne parole ou faire des. Proposer des formats qui sont bons, quoi. Il faut arrêter de donner de la merde aux gens. Enfin, je pense. Si on arrête de donner de la merde aux gens, que ce soit tant au niveau qualitatif au niveau qualitatif, c'est ça, les gens, ils s'habitueront à ça, ils seront très contents. Moi, je pense, il faut juste proposer tous ces supports. Alors après, celui qui ne veut pas avoir un morceau, ce qu'on peut dire le défaut de la haute résolution aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas mettre autant de morceaux dans son petit baladeur. Mais au moins.
Ça, c'est une question de temps, je pense.
Une question de temps, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans quelques années, on pourra mettre de plus en plus de. Donc tout ça, ça va se démocratiser. Le haut débit Internet va se démocratiser. Donc tout ça, c'est une question de temps, c'est vrai. Et puis peut-être que dans quelques temps aussi, on arrivera à faire des meilleures compressions de données, je ne sais pas, garder une bonne résolution aussi. Et puis, donc voilà, moi je trouve ça important de quand même essayer d'approfondir cette qualité qui malgré tout, même si ça paraît comme ça, on s'en fout, malgré tout, au final, ça joue sur le subconscient, en fait, du ressenti de la musique, je pense. Voilà. Enfin, voilà, j'ai l'impression que on va prendre plus de plaisir, même si c'est dans les petits écouteurs, qu'on arrête de nous dire ouais, mais on s'en fout, c'est pour que ça finisse sur un ordinateur ou des iPhones. Mais bon, non, mais je crois pas, quoi. Voilà, la musique, c'est quand même un plaisir. C'est quand même un divertissement majeur, et on est en train d'en faire quelque chose de mineur, à pas vouloir payer, à pas vouloir à écouter des sons pourris. Voilà, je pense que voilà, il faut faire attention à ça. Mmh. C'est l'avenir de la musique qui est en jeu. C'est-à-dire, voilà, on veut pas. On veut que ce soit toujours agréable, et ça accompagne les gens toute leur vie, la musique. Donc il faut essayer de garder ça. Je veux dire, tous les gens qui ont un peu de notre génération, 40 ans, même les plus vieux, sans s'en rendre compte, voilà, ils aiment pas trop, à mon avis, la musique compressée. Et je pense que les jeunes, la musique compressée... Même quand on est jeune, on s'en fout, mais après, après, ils vont se dire, ah oui, mais quand même, c'est fatigant, on peut pas écouter ça toute la journée. Enfin, après, voilà, quand on est jeune, on peut peut-être, mais après quelques années, on se dit, ouais, non, mais là, cet album-là, je peux pas me l'écouter. Bon, mais ou alors, je suis trop vieux et j'ai complètement, je me dis, zut, aujourd'hui, on n'écoute plus du tout de la même façon, on n'écoute plus des albums, on écoute un morceau, on zappe, on change tout le temps, mais bon. Je pense que la nature humaine fait que voilà, on a envie de se faire plaisir, qu'on écoute de la musique avant tout. Et comment se faire plaisir? C'est en écoutant des choses de bonne qualité. Voilà.
Yeah.
prochain Coco Souma qui arrivera.
On ne sait pas. Sûrement, on va. Il y a rien de prévu en fait. On a juste prévu de se revoir après tous ces événements de studio, c'est-à-dire de.
Je crois que c'est de dire après les élections.
Non, on n'est pas. On n'est pas militant, mais le. Non, après, donc, je pense que les studios, ce sera fini après l'été. Donc, on va finir ça déjà parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, après l'été, donc, on a eu des enfants aussi. On se revoit après l'été. Moi, ce que j'ai envie de faire, par exemple, pour Coco Souma, là, en ce moment, c'est arriver à même si c'est de la musique un peu électro-pop, arriver à faire des enregistrements live, très peu de micro, et à se prendre la tête sur le voilà, sur le setup, sur le dire, on va prendre voilà 4-5 micros bien placés, des micros d'ambiance, des micros de proximité, mais pas trop, et à jouer notre musique électro en live, parce qu'on fait nos démos, et je trouve ça super, mais en fait, on fait jamais ça qu'on fait un disque. C'est-à-dire arriver à, comme un disque de jazz, mais avec de la musique électro-pop. C'est-à-dire une sorte de tout le monde joue ensemble, on a bien préparé avant les parties, les refrains. Et on essaye de restituer je reviens à l'émotion, une émotion d'une prise, où tout le monde joue ensemble, où c'est peut-être pas parfait, mais il y a un truc qui se dégage de ça. Et quand on fait de nos démos, et ben souvent, comme c'est des démos, bon, on peut pas les garder parce que le texte n'est pas fini, parce qu'on est encore en train de chercher nos parties, mais il y a une sorte de fraîcheur qui est incroyable. Et justement parce qu'on est encore en train de chercher qu'on n'arrive jamais à, et ça c'est toujours le syndrome de tous les musiciens, enfin beaucoup de gens qui préfèrent toujours les démos après qu'on s'y habitue en plus. Bon. Donc voilà, ce que j'aimerais faire pour Coco Souma, c'est ça, arriver à essayer de se retrouver une sorte de fraîcheur et hors considération radiophonique, c'est-à-dire single. Ce qu'on a essayé de faire sur le dernier album, et en fait je me rends compte que c'était rigolo d'essayer de faire des choses en se disant tiens, on va essayer de faire un truc qui pourrait passer à la radio, mais en fait ça rime à rien parce que ce qui passe à la radio, bon, aujourd'hui c'est un peu déplorable quand même, c'est-à-dire qu'on va, c'est plus le choix d'un DJ, c'est le choix d'une couleur, c'est le choix de se dire tiens, il faut faire écouter aux gens des choses qu'ils connaissent, donc, ou des choses qui ressemblent à quelque chose qu'ils connaissent déjà, ou des reprises. En fait là, aujourd'hui il y a plus trop de, à part sur les radios, les petites radios, mais je veux dire, pour Coco Souma, moi j'ai pas envie d'avoir ces considérations là je pense que justement là, c'est la fenêtre, ma fenêtre à moi, en tout cas, voilà, moi je fais du mastering, c'est 90% de mon temps. Quand je fais de la musique, j'ai vraiment envie de m'éclater, j'ai pas envie de me dire tiens, je vais faire un single. Mais bon, ça m'empêche pas d'essayer d'en faire un, mais je veux dire, j'ai envie qu'on aille dans une direction très frais et très libre, et puis que ça nous échappe en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est de nous dire ah tiens, on a fait ça, mais c'est incroyable. Comment on a fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Enfin, quand on est en groupe, c'est ça en fait, c'est mélanger les influences pour faire quelque chose qu'on... Moi, des fois, il y a des morceaux, je me dis, mais tiens, si j'avais été tout seul, j'aurais jamais fait ça. Et c'est ça qui est joli, je trouve. C'est-à-dire, on essaye d'arriver à des choses imprévues. Et en fait, voilà, la musique, c'est ça. Ce que j'aime bien à la musique, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien aussi au mastering quand les gens sont là, c'est qu'on... On parle, on dialogue, on essaye, et puis on dit ah ouais, mais ça, ouais, mais t'as fait ça tout à l'heure. J'aime bien, moi, par exemple, quand je cherche derrière moi, les gens me disent ah stop là, il y a un truc. Et alors que moi je suis dedans, et je dis ah ouais, ok, d'accord. et j'aime bien parce que voilà, c'est la musique, c'est un échange, c'est des imprévus, voilà, j'aime bien tout ça.
Et dans les prévus, c'est quoi les albums sur lesquels vous travaillez en ce moment, vous allez travailler à Translab?
Les albums du moment. Quelques-uns,
les albums du moment, sur ceux que vous venez de terminer ou ceux que vous allez attaquer.
Donc, par exemple, ceux que je viens de terminer et ceux qui sortent en ce moment, c'est complètement différent. Par exemple, là, bon, on en parlait tout à l'heure, je viens de faire le Dionysos, je viens de faire le Tellier, mais que j'ai masterisé il y a. Le Tellier, ça fait presque presque. C'est en juin, juin 2011, j'ai masterisé. Donc c'est,
presque un an.
Ouais, enfin, on n'y est pas loin. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que.
Et là, sur les plannings à venir.
Sur les plannings à venir. Alors, il y a. J'ai pas. Là, je viens de faire. Donc, il y a le. Gizmo, l'album de Gizmo qui sort en avril. J'ai. Voilà, la question, c'est toujours.
oh, si
il
c'est
faut que je me. Le brainstorming, je ne m'en rappelle jamais des projets. Qu'est-ce que j'ai fait
Il y en a trop.
Barbara Carlotti. Ouais. Qui
vient de sortir. Ouais.
Ouais.
Bel album.
Très bien, ouais, ouais, super. Tac. Donc après, voilà, dans les trucs qui sont sortis un peu avant, bon, j'ai travaillé sur le dernier R avec Méliès, là.
Pas mal de beaux projets.
Pardon.
Est-ce que vous avez pas mal de beaux projets.
Ouais.
Est-ce que vous avez des rêves ou des nouveaux albums à chaque fois de tel groupe ou de tel artiste qui sortent et vous aimeriez bien travailler avec.
Ouais, ouais. Bah, j'ai pas, c'est pas des rêves, c'est juste me dire oh, mais pourquoi il est pas venu me voir. Enfin, ça, c'est, Non, mais bien sûr, il y a des trucs chouettes. Je parle en France parce que voilà, nous, malgré tout, bon ben le. Il y a un truc aussi, c'est qu'on sera toujours moins bon que les Américains ou les Anglais. Je dis ça un peu ironiquement aussi, mais ce qui est vrai et pas vrai, enfin, je sais pas. Ça
oui, j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de mythe comme
voilà,
ça, genre,
ouais.
c'est mieux là-bas, enfin, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais il y a toujours.
Bah oui, faut dire quand même quelque chose, c'est que c'est la culture rock, entre guillemets, qui est au sens large du terme.
Oui, c'est sûr que ça vient plus de là-bas que d'ici.
Voilà,
ça, c'est sûr.
Donc, bah, forcément, on est quand même plus attiré. Et puis, il faut voir que quand quelqu'un a fait un album qui cartonne mondialement, bon ben et qui sonne très bien et ben on se dit toujours ben j'ai envie de travailler avec cette personne, ce qui est normal. Donc après voilà, il faut juste savoir qu'aujourd'hui ben ça dépend d'où on à quelle porte on tape. Il y a des fois moi il m'arrive super souvent de refaire des mastering qui ont été faits à l'étranger parce que c'est fait par-dessus la jambe. Donc voilà, c'est bon alors après voilà, donc j'ai pas de rêve de faire de projets étrangers, même si voilà j'aimerais bien, mais bon mais en France, ouais, il y a quand même un beau vivier de scènes musicales. Juste, moi, mon but dans tout ça, c'est que de faire que il y en ait de moins en moins qui partent à l'étranger, parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, l'écart, c'est vraiment avec Internet. Justement, on en parlait tout à l'heure, à découvrir le secret des autres, les machines. Et maintenant, avec Internet, on a appris beaucoup de choses par rapport à avant. Il y avait une sorte d'opacité, il fallait aller dans les studios pour voir ce que les gens avaient et comprendre. Et aujourd'hui, avec les forums de discussion, les gens qui se donnent leurs plans, je trouve ça génial. C'est-à-dire que moi, voilà, c'est pareil, moi, quand il y a un stagiaire, je lui donne mes plans, j'ai pas de problème. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que l'écart s'est vraiment réduit au niveau technique et puis aussi, voilà, nous, on a été baignés, les gens de notre génération, par la. Moi, mes parents, ils écoutaient. La chanson, mais écoutez, moi j'ai de la pop rock anglaise et anglo-saxonne quand j'étais petit, donc on était quand même baigné dans ce son-là quand on était petit, et c'est un peu aussi ça qu'on a envie de restituer. Moi je pense qu'il y a beaucoup un truc d'enfance aussi dans la musique, c'est-à-dire qu'on essaye de restituer un peu le son de son enfance. Donc nous, c'est le son des années 70, bon ben voilà, et années 80. Mais voilà, tout ça pour dire que l'écart s'est quand même réduit. Et voilà, moi, mon but aujourd'hui, c'est de dire, bah voilà, nous, on propose un service quand même qui est quand même pas très loin de ce qu'un Anglais ou un Américain va proposer. Et voire même des fois mieux. Tout dépend, en fait. Voilà, des fois mieux parce qu'on va y mettre plus de nous, tu vois. Donc après, voilà, des artistes particulier, non, j'ai pas de. Moi, j'aime bien quand il y a un artiste que j'aime bien qui vient me voir, bien sûr, mais je me suis dit pas, tiens, lui, j'aimerais bien le faire. Ou alors, voilà, par exemple, j'aimerais bien faire le prochain Daft Punk, mais parce que parce qu'on se connaît aussi, mais voilà, je vais pas aller le voir en disant, gna gna gna. Mais bon, je me dis juste, le truc, il est tellement énorme mondialement que si. Voilà, après, c'est plus des challenges comme ça. Mais s'ils viennent pas, tant pis, je comprendrai aussi. Enfin, le truc, voilà, on se dit, ah bah tiens, on aimerait bien avoir son nom. C'est vrai, sur un truc qui cartonne mondialement, c'est toujours gratifiant. Et puis ça fait du coup ça fait venir d'autres gens derrière, donc c'est ça qu'on cherche plus à faire, enfin moi en tout cas que je cherche à faire en mastering, c'est faire des indés et puis c'est toujours plaisant quand un album il cartonne et du coup que le nom circule, voilà, c'est ça qu'on voilà.
Alors on a dit le mot son et production plein de fois dans cet entretien. Est-ce que vous avez un album fétiche ? Alors j'imagine qu'il faut artistiquement qu'il vous touche aussi, mais un album qui pour son univers sonore, à chaque fois que vous le mettez, alors je ne sais pas si c'est sur un vinyle ou sur un CD, ça reste une sorte de graal ou de perfection, mais vraiment personnel, quelque chose qui vous tient à cœur, ou non, peut-être pas.
Ah si, mais je pense qu'il n'y en a pas qu'un, quoi.
Ouais. Vous avez le droit de dire deux, peut-être trois. Non mais comme ça, le nom ou les noms qui vous viennent comme ça à l'esprit, peut-être que vous nous rappellerez tout à l'heure en disant j'ai oublié de dire celui-là, mais juste un comme ça, mais vraiment plus pour cet aspect vraiment texture, sonorité, quelque chose.
Ouais, alors voilà, Neil Young on the Beach, génial. La largeur du son, cette prise live, à mon avis, je ne suis pas renseigné là-dessus, mais ça a l'air vraiment d'être une prise live. Le son ample, l'émotion, même le solo de guitare, enfin tout y est, quoi. C'est simple, c'est touchant. La chanson On the Beach, plus particulièrement, c'est incroyable.
Ok. Merci, Cheb.
De rien.
Oh,
radio interview. But I ended up alone at the microphone. To the radio interview, but I ended up alone at the microphone. Get out of town. Think I'll get out of town. Get out of town. Think I'll get out of town. I head for the sticks with my bus and friends. I follow the road, no, I don't know where it ends. Get out of town. Get out of town. I think I'll get out of town. Because the world is turning.
Cobuzz.com Rencontre
haute fidélité
par Marc Sisman.